Et le journal est présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. L'accord de Brexit n'est pas renégociable, répète l'Union européenne. Comme Theresa May et les députés britanniques ne semblent pas l'avoir compris, les 27 remettent les points sur les i. Nous irons à Bruxelles et à Dublin. Nouvelle manifestation de l'opposition à Caracas pour réclamer le départ de Nicolas Maduro. Le président vénézuélien sud est prêt à dialoguer, mais il n'a pas l'intention de remettre son mandat en jeu. Les fintechs pourraient changer le monde, assure la patronne du FMI. Christine Lagarde incite les startups de la finance à favoriser l'inclusion bancaire. Avec Catherine Pétillon, nous nous intéresserons à ce secteur qui cherche surtout pour l'instant à concurrencer les banques. L'avenir du journal L'Humanité en suspens. Devant le tribunal de commerce, la direction a demandé à bénéficier d'un plan de redressement judiciaire. Le ton est ferme vis-à-vis du Royaume-Uni. L'accord de Brexit ne sera pas renégocié. L'Union européenne n'a pas apprécié le vote hier par le Parlement britannique d'un amendement prévoyant une nouvelle discussion sur le backstop, le filet de sécurité concernant la frontière irlandaise. Cette disposition doit garantir, faute d'une autre option, le maintien d'une frontière ouverte et de la libre circulation entre les deux Irlandes. Le Premier ministre irlandais, Leo Varadkar, doit s'entretenir avec Theresa May et il y a peu de chances qu'il offre la moindre concession. On retrouve Julien Lagache à Dublin.
Le vote du Parlement britannique est une déception pour Dublin, mais pas une surprise. Cependant, tandis que l'impasse politique perdure à Londres, la position irlandaise, elle, ne changera pas, a encore rappelé ce midi le Premier ministre Leo Varadkar.
L'Union européenne, dont l'Irlande, s'en tient au texte actuel de l'accord de retrait qui comprend le backstop, la disposition qui concerne l'Irlande. Quant au souhait qu'ont exprimé les députés britanniques de trouver des solutions alternatives, je ne sais pas de quelles solutions ils parlent et je ne crois pas qu'elles existent.
D'où une position ferme sur le backstop, considéré dès le départ des négociations par l'Irlande comme une assurance contre le rétablissement d'une frontière, symbole des violences passées en Irlande du Nord. Pas question donc de revenir sur cette garantie, a martelé le chef de la diplomatie irlandaise Simon Coveney.
Il est d'une importance cruciale que les politiques à Westminster entendent le souhait exprimé par la majorité de la société nord-irlandaise, qui est d'empêcher un retour aux frontières et aux divisions du passé. Soyons clairs à ce sujet. Il y a des choses plus importantes qu'un partenariat économique. Et celle-ci en est une.
Autrement dit, plutôt soutenir le processus de paix nord-irlandais que de conclure n'importe quel accord commercial post-Brexit avec le Royaume-Uni. Dublin affirme donc que la balle est dans le camp des Britanniques et que c'est à eux de choisir comment éviter un divorce brutal.
Et à Bruxelles, Jean-Claude Juncker a invité les 27 à se préparer à tous les scénarios, y compris le pire. Le président de la Commission européenne estime que le vote du Parlement britannique a accru le risque d'un retrait désordonné du Royaume-Uni. La correspondance d'Angélique Bouin à Bruxelles.
C'est un moment grave et très sérieux. Cet accord ne sera pas renégocié. Michel Barnier, face aux députés, a réexpliqué avec beaucoup de solennité l'importance pour les 27 États membres de maintenir le filet de sécurité avec la frontière irlandaise. C'est ce qui protégera les consommateurs européens, a-t-il martelé. Nous ferons tout pour éviter une sortie sans accord, a répété de son côté le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Il se dit optimiste, on y travaille jour et nuit et il lance un message aux 27.
Il est plus que jamais important que l'Union européenne reste calme, unie, déterminée, ainsi qu'elle a été tout au long de ce processus.
Les Européens restent donc droits dans leurs bottes. La balle est dans le camp de Theresa May. Elle doit clarifier sa position sur la seule ouverture possible vue de Bruxelles, une renégociation sur la relation future. Mais le temps presse. Afin de ne pas être prise au dépourvu, la Commission a annoncé ce matin de nouvelles mesures d'urgence en cas de départ désordonné du Royaume-Uni, de l'Union européenne, le maintien des programmes Erasmus ou encore la prise en compte des années passées en Grande-Bretagne pour calculer les retraites.
Les recherches se poursuivent au large de Djibouti où deux embarcations de migrants surchargées ont chaviré hier. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, le naufrage a fait au moins 38 morts, mais il y a également des dizaines de personnes toujours portées disparues. Bonsoir Marie-Pierre Véraud.
Bonsoir.
Ces exilés cherchaient à rejoindre le Yémen, un pays pourtant en guerre et donc particulièrement dangereux, Marie-Pierre.
Oui, un pays en guerre, 10 000 morts, peut-être 5 fois plus, assurent les associations de défense des droits de l'homme depuis l'intervention d'une coalition militaire menée par Riyad en 2015. Un pays en proie à la famine, Elle menace 14 millions de Yéménites, selon l'ONU, qui parle de la pire crise humanitaire dans le monde. Un pays frappé par les épidémies, les cas de choléra s'y multiplient de nouveau. C'est pourtant bien dans ce pays que cherchaient à aller ces embarcations surchargées de migrants africains. Ils vont chercher du travail dans la péninsule arabique et passent pour cela par une route qui traverse le nord du Yémen. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, le nombre de nouvelles arrivées au Yémen augmente de manière continue depuis 7 ans. Ils étaient 100 000 en 2017. Certains rebroussent chemin face aux violences, mais le gouvernement éthiopien, par exemple, malgré des campagnes pour mettre en garde ses ressortissants contre les dangers de telles traversées, voit des milliers de candidats à l'exil pour une meilleure vie quitter le pays. Et dans ce détroit qui sépare Djibouti du Yémen, les migrants passent en fait dans les deux sens, car les Africains fuyant la misère croisent les embarcations de réfugiés yéménites qui, eux, veulent échapper à la guerre. Les embarcations sont souvent surchargées. Hier, la mer était agitée et les deux barques qui ont donc fait naufrage l'ont fait une demi-heure à peine après avoir quitté Djibouti. Les premiers corps ont été rejetés sur le sable, certains à moitié enfouis. Il y aurait eu au moins 130 personnes à bord. Pour l'heure, donc, seuls 16 survivants ont été retrouvés.
Marie-Pierre Véraud. Rome s'est entendue avec 6 autres pays européens, dont la France, pour répartir les 47 migrants sauvés par le navire humanitaire Sea-Watch 3 et bloqués en mer depuis 12 jours. On retrouve notre correspondante en Italie, Mathilde Imberti. Mathilde, le débarquement est a priori imminent.
Oui, absolument. La situation est en train de se débloquer. Le navire va débarquer à Catane, dans l'est de la Sicile. Le ministère de l'Intérieur l'a annoncé il y a 20 minutes. Pourquoi Catane? Parce qu'il y a là-bas des centres d'accueil pour les mineurs. Les personnes majeures seront, elles, immédiatement transférées à Messine, toujours en Sicile, selon le ministère. 47 migrants se trouvent à bord du Sea-Watch 3, dont 13 adolescents. Cela fait 12 jours, vous l'avez dit, qu'ils patientent au large des côtes italiennes. Les ports italiens sont restés fermés jusqu'à ce que plusieurs pays européens se mettent d'accord pour accueillir ces personnes. D'abord, la France, le Portugal, l'Allemagne, Malte, la Roumanie et puis le Luxembourg s'est fait connaître ce matin. L'épopée de Sea-Watch 3 a été diversement commentée en Italie. Elle a choqué en partie. Des parlementaires italiens étaient montés à bord du navire pour témoigner de l'urgence et parler avec des survivants. Trois élus, dont un, c'est à noter, de Forza Italia, la droite modérée italienne. Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur, lui, alors que l'épopée se finalise par un débarquement, se félicite d'avoir tenu fermement sa position. Encore une fois, commente-t-il, l'Europe a été contrainte à intervenir et à prendre ses responsabilités.
Mathilde Imberti, correspondante de France Culture en Italie. Nicolas Maduro appelle l'armée vénézuélienne à se mobiliser et à s'unir face aux appels à la rébellion. Supervisant des manœuvres militaires à Caracas, le président du Venezuela a accusé des soldats déserteurs devenus mercenaires de conspirer depuis la Colombie pour diviser l'armée, pilier de son gouvernement. Mais Juan Guaido, chef de l'opposition, organise en ce moment même une nouvelle manifestation et vous êtes sur place à Caracas, Benjamin Delisle.
Sur la place Altamira, au lieu de la contestation à Caracas, les manifestants ont commencé à arriver tranquillement à partir de midi pour se réunir. Ils n'étaient pas nombreux au début, mais petit à petit, la place se remplit avec des drapeaux vénézuéliens, des casquettes aux couleurs du drapeau vénézuélien, mais aussi beaucoup d'outils pour faire du bruit, en plus des klaxons des voitures de soutien qui passent autour de la place. Des sifflets ont été amenés, mais aussi des vuvuzelas. Les manifestants essayent de faire un maximum de bruit. Le but de la contestation aujourd'hui, c'est d'exiger que l'aide humanitaire entre au Venezuela, une aide humanitaire qui dépend du bon vouloir de l'armée qui contrôle les frontières. Juan Guaido, qui a convoqué cette manifestation, l'opposant, dit avoir réuni 20 millions de dollars d'aide humanitaire la semaine dernière, mais sans l'aval de l'armée, ils ne passeront jamais la frontière. Les manifestants ici se disent plus que jamais déterminés. Ils rejettent l'appel au dialogue de Maduro, un appel qui ne vaut rien, puisque ce n'est pas l'Assemblée nationale acquise à l'opposition qu'il faut réélire, mais bien le président.
Benjamin Delisle à Caracas. Comme un retour à l'époque de la guerre froide. Aux États-Unis, le Rodchenkov Act, projet de loi destiné à criminaliser le dopage institutionnalisé hors des États-Unis, est arrivé au Congrès. Objectif, selon les législateurs, défendre les intérêts des sportifs américains. La Russie, au centre d'un gigantesque scandale d'État il y a quelques années, est ouvertement visée. Les explications de Loïc Glory à New York.
L'américaine Alicia Montagno était arrivée cinquième du 800 mètres aux Jeux Olympiques de 2012. Deux athlètes russes s'étaient classées première et troisième, finalement disqualifiées pour dopage, mais le mal était fait. Alicia Montagno n'a pas eu les honneurs du podium ou l'argent des sponsors. Le Rodchenkov Act doit permettre de défendre les sportifs américains dans ce genre de situation. Le texte porte le nom de l'ancien patron du laboratoire antidopage russe, devenu lanceur d'alerte, aujourd'hui réfugié aux États-Unis. Entre 2011 et 2015, Moscou avait été au centre d'un scandale de dopage institutionnalisé. Un millier de sportifs au moins sont concernés. Le projet de loi vise donc à criminaliser tout stratagème visant à influencer un événement sportif mondial grâce à des substances ou à des méthodes interdites. Le texte prévoit dédommagement pour les athlètes lésés, soutien aux lanceurs d'alerte et des sanctions pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison et 1 million de dollars d'amende. Pour se justifier, les États-Unis invoquent leur importante contribution à l'Agence mondiale antidopage. Ils veulent en quelque sorte en avoir pour leur argent. Fait rare dans ce congrès américain divisé, le Rodchenkov Act a le soutien des démocrates comme des républicains.
Offensive d'Amnesty International contre les géants du tourisme en ligne. L'Organisation des droits de l'homme accuse Booking.com, TripAdvisor, Expedia et Airbnb de complicité de crimes de guerre en faisant la promotion des annonces pour des colonies des territoires occupés. Amnesty dénonce notamment l'exploitation par les colons israéliens du patrimoine touristique palestinien en territoire occupé. Reportage d'Étienne Monin.
La Lideré est très investie dans sa communauté. Elle vit en territoire occupé à quelques kilomètres d'une colonie qui draine un tourisme important. C'est un axe de développement, dit-elle, décidé au niveau politique.
Depuis que la droite généralement est au pouvoir depuis 1996, on a un vrai développement, pas seulement démographique, au niveau touristique aussi. Bien entendu, il faut comprendre que c'est une région incroyable au niveau des fouilles archéologiques. C'est-à-dire que la Bible, en fait, elle a été écrite dans ces régions-là. Si on prend la Bible, on peut s'en servir comme GPS. Et puis, c'est un endroit qui est très beau. Et donc, c'est normal que le tourisme ait fait un bond depuis quelques années.
Dans son rapport, Amnesty dénonce une forme de normalisation et l'exploitation du patrimoine palestinien par les colons israéliens. L'ONG considère que les géants du tourisme sont complices de la situation. Laïta Bouzeyad d'Amnesty International.
En travaillant et en agissant dans les colonies israéliennes et en tirant des profits de ces colonies, ces compagnies sont complices de violations des droits de l'homme dans les territoires occupés. Donc ils font du profit sur un crime de guerre. Et ces compagnies qui travaillent dans le tourisme sont juste un exemple. Mais d'autres types d'entreprises travaillent aussi là-bas, ce qui doit aussi cesser. Les États ont aussi l'obligation d'empêcher ces compagnies qui sont domiciliées sur leur sol de travailler dans les colonies.
En novembre dernier, Airbnb avait ouvert la voie en annonçant le retrait des annonces en territoire occupé. Aujourd'hui, le ministre israélien des Affaires stratégiques menace de fermer ses frontières aux employés d'Amnesty. Le nombre de colons se situe autour de 650 000.
Pour Christine Lagarde, les start-up de la finance peuvent rendre le monde meilleur. Au Paris FinTech Forum, FinTech pour technologie financière, la directrice générale du Fonds monétaire international a estimé que les FinTech pourraient être, je cite, une incroyable force au service du bien dans le monde. Aux 2 milliards de personnes qui ne sont pas bancarisées ou mal bancarisées, les start-up pourraient donner accès à des plateformes de transactions sécurisées permettant notamment de transférer de l'argent à sa famille à l'étranger. L'idée de Christine Lagarde a semblé intéressante. C'est les start-upers présents au forum, mais on n'en est pas tout à fait là aujourd'hui. Le secteur cherche à s'affirmer avant tout comme concurrent des banques. Et pour gagner en crédibilité, Catherine Pétillon, son impératif aujourd'hui, c'est de se réguler.
Le secteur n'est plus tout jeune, pas encore vieux, mais assurément en train de se structurer. En France, environ 500 start-up proposent désormais de nouveaux services financiers, de paiement, de gestion de budget, des cagnottes en ligne ou encore du conseil en investissement ou en patrimoine. Autant de services qui jusque-là étaient chasse gardée des banques. De quoi créer d'importantes frictions, même si pour Alain Clos, le président de l'association France FinTech, en peu d'années, les banques ont changé d'attitude.
Au tout début, c'était l'indifférence. Et puis après, on a eu une forme d'irritation parce que d'aucuns pensaient qu'ils bénéficiaient davantage indus, ce qui n'est pas le cas puisque la France a fait le choix d'appliquer la même réglementation à tous les acteurs, qu'ils soient grands ou petits. Et maintenant, on est sur un très très fort intérêt puisqu'il y a énormément de coopération, énormément de rachats, de prises de participation, ce qui n'empêche pas une forme importante de compétition.
Il faut dire que désormais, une directive européenne oblige les banques à partager avec d'autres acteurs financiers certaines données de leurs clients, si ces derniers le souhaitent bien sûr. Reste à savoir comment, car beaucoup voient encore d'un mauvais œil des services permettant aux clients de comparer et parfois d'aller chez le concurrent. Mais la principale concurrence pourrait venir d'ailleurs, avertit Olivier Gersan, en charge de la stabilité financière à la Commission européenne, en l'occurrence des géants du numérique.
Tous ces géants s'intéressent à ça. Pas parce qu'ils rêvent de rentrer sur le marché des paiements, mais parce qu'évidemment, ça va leur permettre d'accumuler tout un autre tas de données sur leurs clients. Ils ont déjà énormément de données, ils savent tout de vous, sauf ce qui a trait à vos finances. Mais maintenant, ils sauront aussi ce qui a trait à vos finances. Et donc là, on a un vrai sujet à la fois de concurrence, parce qu'on a bien vu dans d'autres secteurs qu'ils étaient capables très très vite d'attirer toute la valeur ajoutée et en fait de faire le vide autour d'eux, et puis des problèmes de protection des données.
L'efficacité de la réponse dépendra de la coordination européenne, or elle reste encore difficile sur ces sujets.
Catherine Pétillon, le journal L'Humanité va-t-il continuer à paraître ? Le quotidien communiste fondé en 1904 par Jean Jaurès s'est déclaré en cessation de paiement et une audience s'est tenue ce matin au tribunal de commerce de Bobigny pour décider de son avenir. Le quotidien fêtera cette année ses 115 ans et emploie près de 200 salariés. La direction a demandé à bénéficier d'un plan de redressement judiciaire avec poursuite de l'activité pour éviter une liquidation. De son côté, le syndicat national des journalistes remet sur la table sa proposition d'actionnariat citoyen. Écoutez Thomas Lemayeux, délégué syndical SNJ à L'Humanité.
On constate qu'on a autour du journal un élan de sympathie extrêmement fort qui a permis pendant des années au journal de continuer d'exister, de vivre, de se développer. On est toujours soutenu par nos lecteurs de manière très importante. On reçoit chaque année des millions d'euros de souscriptions. Il se trouve que aussi depuis quelques années, on est quand même en difficulté financière de plus en plus forte. On a des plans de développement qui ont été tentés mais qui n'ont pas pu aboutir jusqu'ici. Comme on n'a pas de puissance financière derrière nous et on ne souhaite pas forcément en avoir une, parce qu'évidemment c'est le gage de notre indépendance, on pourrait par exemple essayer de rassembler plusieurs centaines de personnalités, disons, qui deviendraient actionnaires de L'Humanité dans une espèce de collectif d'amis actionnaires du journal, qui seraient donc des personnalités du champ de la culture, des intellectuels, des chercheurs, des universitaires, etc. Mais on a une faiblesse, c'est de ne pas avoir d'actionnaires puissants qui possèdent la plupart des grands quotidiens, mais on peut aussi considérer que ça peut devenir une force si on sollicite toute la mouvance au sens très large qui peut se retrouver dans les idéaux qui sont portés par L'Humanité aujourd'hui et qui l'ont été par le passé si on se réfère à Jaurès.
Thomas Lemayeux du SNJ, joint par Audrey Dumain, et le tribunal de commerce doit se prononcer sur le sort du journal L'Humanité le 7 février. La Cour de cassation a rejeté le recours de Nicolas Sarkozy contre Mediapart dans l'affaire des accusations de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. L'ancien président accusait le site d'information d'avoir produit un faux en 2012. La plus haute juridiction judiciaire a définitivement confirmé le non-lieu. Une peine de 7 ans d'emprisonnement a été requise contre les deux policiers jugés aux assises de Paris pour le viol d'une touriste canadienne au 36 quai des Orfèvres. Les accusés et la plaignante ont deux versions totalement opposées de la façon dont s'est déroulée cette nuit du 22 au 23 avril 2014. Le procès s'est poursuivi cet après-midi avec les plaidoiries de la défense, Florence Thurme.
Mon intime conviction est qu'Emily Stanton a bien été une victime non consentante d'actes sexuels imposés, avait conclu ce matin l'avocat général en requérant 7 ans d'emprisonnement, un réquisitoire de 3 heures précis et sans concession à l'encontre des deux accusés. Mais l'intime conviction, ce n'est pas ce discours parcellaire, riposte l'une des deux avocates de la défense. Dans ce dossier, vous n'avez aucun élément objectif, poursuit Marion Grégoire, rien, le grand vide, juste la souffrance de cette femme. Mais cela ne peut pas être un élément déterminant de la vérité. Emily Spanton n'est pas restée pour assister aux plaidoiries. On est dans l'ahurissement, l'hallucination, enchérit Sébastien Shapira, car Madame Spanton, c'est la fabrique du mensonge en direct. Il faut mettre un terme à cette mascarade, s'exclame l'avocat avec emphase. Il désigne le policier qu'il défend. Il faut redonner une vie à celui qui s'occupe de son fils, de son père, de la vie de la France. Face à la cour, sa conclusion tient en trois mots. Ça suffit maintenant. À son tour, Anne-Laure Compoint s'avance à la barre, style direct, langage volontiers familier. L'avocate s'est fait une spécialité de défendre les membres des forces de l'ordre et elle tempête contre ce qu'elle appelle un dossier noir dans lequel la police, l'IGPN, le ministère public se sont, dit-elle, pris les pieds dans le tapis. Elle occupe l'espace, claque des doigts, frappe le pupitre, sa voix vibre dans la salle. Dans les rapports médicaux, où sont les lésions, les violences décrites par Emily Spanton ? Rien. aucune constatation de bleu ni de bosse. Elle insiste sur les mensonges qu'elle impute à la plaignante. L'avocat général, il doit nous rapporter la preuve, pas l'intime conviction, assène encore à Laure Compoint. Elle s'approche des jurés. Ce sera l'une des décisions les plus graves de votre vie. Vous n'êtes pas là pour boucher les trous.
Laurence Thurme, en direct du Palais de Justice de Paris. Le verdict sera prononcé demain. Des débris d'avions ont été retrouvés sur une plage de Surtainville, dans la Manche. Selon le Bureau d'enquête britannique sur les accidents aériens, les deux sièges retrouvés proviennent probablement de l'avion qui transportait le footballeur argentin Emiliano Sala et son pilote, disparu le 21 janvier au-dessus de la Manche. La météo, une vigilance orange, neige verglas concerne l'Aveyron jusqu'à minuit. Demain jeudi, une nouvelle dégradation pluvieuse. Elle arrivera par l'ouest et les pluies progresseront vers l'est au fil de la journée. Le matin, gelée fréquente sur le nord, l'est et du massif central à Rhône-Alpes. Ailleurs, les minimales iront de 1 à 8 degrés. L'après-midi, 5 à 9 sur le nord, l'est et la région centre, 8 à 15 ailleurs. Ce journal a été préparé avec Benjamin Ducy.